Nous sommes le week-end de Pentecôte, hein, pour ceux qui auraient oublié, je le rappelle. Donc c'est-à-dire c'est le week-end de la fête juive où Dieu a décidé d'envoyer l'Esprit Saint sur ses disciples. Donc on remonte 2000 ans en arrière. Hein. Jésus était monté au ciel 10 jours avant cette fête de la Pentecôte hein, et les disciples attendaient, ils attendaient. Jésus leur avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, ils attendaient. Un jour, 2 jours, 10 jours. Ils ne comprenaient pas encore tout ce qui allait se passer. Hein. C'était, une puissance surviendrait sur vous. Ils se demandaient, ils attendaient cette promesse. Auparavant, dans les évangiles, Jésus avait soufflé sur ses disciples, si vous vous souvenez. Il avait soufflé sur eux et il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ça, c'était un peu avant. Et finalement, eh bien, la promesse s'est accomplie le jour de Pentecôte. Et là, eh bien, il s'est produit un miracle. L'Esprit est descendu sur tous les disciples qui étaient réunis. Et comme l'Esprit est un esprit, il est invisible, on ne peut pas le voir, eh bien, il s'est rendu visible sous la forme de petites flamèches, petites flammes qui sont descendues et qui sont entrées en eux. Hein, et l'Esprit est entré physiquement en eux, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur corps. Et ce matin, j'aimerais qu'on se penche sur la personne la plus discrète de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, on lit, quand on lit les Écritures, on voit que Dieu est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas m'étendre sur toute la Trinité, mais on voit clairement que Dieu est une unité formée de 3 personnes. Il y a un seul Dieu, un seul, et pourtant, on voit dans cette unité qu'il y a bien 3 personnes qui sont distinctes et qui sont unies, qui sont liées entre elles d'une manière qui est indissoluble. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les diviser, ils sont liés. Un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, eh bien, ce matin, le sujet, c'est la 3e personne qui forme ce Dieu unique, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Quelle est son action sur Terre ? Quelle relation peut-on avoir avec lui ? Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un croyant, le Saint-Esprit ? Alors, on va répondre un peu à toutes ces questions ce matin. Alors, vous savez, chacun se fait sa petite idée du Saint-Esprit. Voilà, on imagine, voilà, c'est ça le Saint-Esprit, où il fait ça, où il fait ci, hein. Alors, parfois, on invente, hein, carrément, hein, quand on part dans des enseignements un peu ésotériques. Hein. Parfois aussi, on veut rester quand même sur la Bible, mais on va déformer la Bible. Et finalement, on va enseigner des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, erronées sur le Saint-Esprit. Alors, eh bien, on va relever quelques erreurs et en même temps les corriger en disant, mais qu'est-ce que dit la parole ? Qu'est-ce que disent les Écritures ? Alors d'abord, premièrement, plus qu'une force agissante, le Saint-Esprit est une personne. Alors peut-être vous avez entendu cette expression, la force agissante de Dieu. Donc c'est les témoins de Jéhovah qui disent que le Saint-Esprit est une force agissante. En fait, comme ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, et qu'ils ne croient pas non plus que le Saint-Esprit est Dieu, ils réduisent le Saint-Esprit à n'être qu'une force. Une force neutre, une force sans vie en fait, hein, un petit peu comme l'électricité. Il n'y a pas d'esprit, enfin, comment dire, pas d'âme, pas de sentiment, pas de volonté, pas d'intelligence. Voilà, c'est neutre, c'est une force, c'est une puissance. Hein. Alors, que disent les Écritures ? Qui est le Saint-Esprit ? Il y a un passage qui nous parle du Messie et qui nous parle de l'Esprit qui reposait sur le Messie. Et c'est intéressant, ça définit bien le Saint-Esprit. Donc c'est Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2, que vous allez voir affiché. Ésaïe 11, et versets 1 et 2. Où il est dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc dans ce premier passage, ça nous parle de Jésus, il est le rejeton qui naîtra de la famille d'Isaïe, et on apprend ce qu'était l'esprit qui reposait sur lui. C'était un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Là, vous avez ce qui constitue une bonne partie d'une personne, en fait. Une personne, eh bien, il y a de l'intelligence, il y a de la connaissance, il y a de la sagesse. Alors, je ne connais pas de l'énergie qui a de l'intelligence. Ça n'existe pas. Qui est encore le Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 12, verset 11. Donc, il est dit ici, donc c'est au sujet des dons du Saint-Esprit. Donc, en ce qui concerne les dons que fait le Saint-Esprit, il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Il veut. Donc, il a une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. Il décide aussi des choses. Il fait des choix. Et il décide, voilà, de donner tel don à telle personne, tel autre don à telle personne. Et ce n'est pas nous qui décidons pour nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui décide et qui donne à l'un et qui donne à l'autre selon sa volonté qui lui est propre. Même si c'est toujours en parfaite unité avec le Père et avec le Saint-Esprit. Ah pardon, avec le Fils. Pour définir une personne comme étant une personne à part entière, ben, il y a l'intelligence, il y a la volonté, il doit y avoir aussi des sentiments. Et le Saint-Esprit, eh bien, on voit qu'il a des sentiments. Il a aussi des sentiments. Il peut notamment aimer et même communiquer, donner son amour. Regardez Romains 15, 30. Romains 15, verset 30. Il est dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » L'Esprit a en lui de l'amour. Et il peut nous le communiquer, il peut le faire couler en nous, cet amour. C'est pour cela que Paul dit de combattre dans les prières par l'amour que donne le Saint-Esprit. On peut prier par l'amour que donne le Saint-Esprit. La Bible nous parle du fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Premièrement, c'est l'amour. Mais ça ne s'arrête pas là. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et là, on a toute une liste de vertus et de sentiments, les deux à la fois. L'Esprit aime, l'Esprit éprouve aussi de la joie. Il a de la joie. Et cette joie, c'est merveilleux parce qu'elle se communique aussi à l'enfant de Dieu. La joie coule aussi dans notre cœur. Quand on est dans l'obéissance, quand on est dans la communion, qu'il n'y a rien entre nous et Dieu, on a la joie aussi qui coule dans notre cœur, la joie du Saint-Esprit. On la ressent. Et vous savez, la sainteté dans la vie du croyant, elle amène toujours la joie par le Saint-Esprit. Et le péché et la désobéissance amènent toujours la tristesse dans le cœur du croyant. Sainteté, joie, péché, tristesse. C'est à chaque fois lié. Regardez Éphésiens 4, verset 13. Non, pardon, 4, verset 30, pardon. 4, 30. Il est dit ici, Éphésiens 4, 30, il est dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. » Et là, Éphésiens 4, 30, on voit que l'Esprit peut se réjouir, mais il peut aussi s'attrister. Il a de la tristesse, et il peut nous faire ressentir aussi cette tristesse. Si on pêche, on brise la communion avec le Seigneur. Et quand on brise la communion, eh bien, l'esprit s'attriste. Et cette tristesse, elle finit aussi par couler dans notre âme. Et on ne se sent pas très bien. On se sent mal. Et là, quand on pêche, eh bien, le fait de ressentir cette tristesse, c'est ce qui permet de comprendre, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La communion, elle est brisée. Là, il y a une coupure. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon Dieu? Où est ma communion avec lui? Est-ce que j'ai fait un faux pas? Est-ce que j'ai désobéi? Il faut se poser la question. On a perdu la communion, on a perdu l'intimité, on a perdu cette proximité avec le Seigneur. Et là, quand vous le vivez, eh bien, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous continuez dans la désobéissance, vous continuez dans ce que vous faites sans faire attention, justement, au fait que vous avez perdu cette communion. Et là, eh bien, dans cette indifférence à cette tristesse, cette ignorance de l'esprit et de ce qui nous fait ressentir, qu'est-ce qui se passe? On commence à s'endurcir et à devenir insensible. Voilà. Si on continue, eh bien, le cœur se ferme, s'endurcit et on devient insensible. Et après, vous savez, on peut même ne plus avoir l'esprit qui nous pointe le doigt sur ce qui ne va pas. Hein, on peut endurcir notre cœur à tel point que voilà, l'esprit ne nous fait plus ressentir quoi que ce soit parce qu'on ne veut pas, en fait, obéir. On ne veut pas obéir. Il peut cesser de nous reprendre. La Bible dit qu'on peut même éteindre le Saint-Esprit. Avant, il plaidait en nous, en nous montrant que ça n'allait pas. Et puis, comme on persévère, eh bien, on l'éteint. Alors, vous savez, quand vous éteignez l'esprit sur un domaine, ça ne veut pas dire que c'est fini, il n'agira plus, il n'agit plus dans votre vie, ce n'est pas ça. C'est que sur ce domaine-là, eh bien, il se met en retrait, puisqu'on veut persévérer. Et il peut encore agir et nous parler sur d'autres domaines. Hein. C'est pour ça, la vie chrétienne, elle est comme cela. Hein. Il y a certaines personnes qui se permettent des choses et l'esprit, eh bien, a cessé de les reprendre sur cela, mais il va continuer à agir dans d'autres domaines. Et c'est dommage, parce que eh bien, on perd quelque chose, et on va le voir tout à l'heure. Donc, soit on continue dans la désobéissance, malgré la tristesse du Saint-Esprit, soit eh bien, on se repent, et on dit « Seigneur, pardon, je sais que j'ai pas bien agi, je fais pas ce qu'il faut, Seigneur, s'il te plaît, pardonne mes péchés. » Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et là, en confessant, hop, la joie peut revenir. Le Saint-Esprit se réjouit d'une communion qui est retrouvée et ça coule de nouveau dans notre cœur. Il dit, hein, quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et, merveilleux, on peut rester en communion. Alors, est-ce que vous ressentez toujours cette joie de l'esprit? Est-ce que vous la ressentez? Ou bien est-ce que vous l'avez perdue en chemin? Alors, on ne va pas voir tous les versets qui concernent le Saint-Esprit, parce que sinon on sera là jusque ce soir. Hein. Mais sachez que la Bible nous montre que l'esprit parle. Hein. L'esprit peut parler dans le livre des Actes. Hein. L'esprit a parlé. Alors, comment il a parlé? Pas forcément, ils ont entendu une voix, mais il a parlé d'une manière qui était claire pour eux, et ils ont compris, c'est l'Esprit qui nous dit de faire ça. Donc, l'Esprit parle, l'Esprit intercède, l'Esprit témoigne, il commande, il supervise, il guide, il enseigne. On trouve tous ces versets dans le Nouveau Testament. Et quand vous voyez tout ça, ben vous dites, mais il n'y a qu'une personne qui peut faire ça, c'est pas une force agissante qui peut faire ça. Donc, plus qu'une force agissante, l'Esprit de Dieu est vraiment une réelle personne. Deuxièmement, plus qu'une présence temporaire, l'Esprit de Dieu est un sceau définitif. Ça, c'est aussi un autre enseignement que l'on peut entendre parfois. Et il est fréquent de rencontrer des personnes qui croient que l'Esprit vient sur des croyants, il les bénit, mais il peut aussi partir et les quitter comme il est venu. Donc, voilà, on va enseigner là la perte du salut. Donc, c'est comme si le Saint-Esprit accorderait une présence temporaire, et cette présence, eh bien, dépendrait de notre obéissance, de notre fidélité. Elle dépendrait de plein de conditions. Et si ce n'est pas réuni, ces conditions, alors il s'en va, il nous quitte. Alors, eh bien, on va prendre un verset dans l'Ancien Testament. David ne dit-il pas, David qui avait péché, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » C'est vrai, David, là, a eu peur. Hein. Il s'est dit « Mais Dieu va me quitter, en fait. Il va me quitter. » Oui, mais ça, c'était avant la Pentecôte. Hein. La Pentecôte n'avait pas encore eu lieu. Et dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait effectivement se poser, même remplissait parfois une personne. Hein, quand Dieu choisissait quelqu'un pour prophétiser, ben l'Esprit reposait sur lui et se mettait à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Mais depuis la Pentecôte, depuis 2000 ans, l'Esprit est venu sceller. Il est venu sceller ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont reconnu Jésus comme le Seigneur, celui qui règne sur leur vie, et le Sauveur, celui qui est mort pour leurs péchés. Tout à l'heure, on avait ce verset 4:30 qui est toujours là, où il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés du Saint-Esprit, scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, nous avons été scellés. Qu'est-ce qu'un sceau ? C'est quoi un sceau ? Aujourd'hui, on ne trouve plus beaucoup de sceaux, hein, comme autrefois on pouvait avoir. Mais c'est une empreinte, c'est une marque d'un souverain ou d'un État sur des objets ou sur des écrits pour les authentifier et puis pour les clore d'une manière qui est inviolable. Hein. Avant, voilà, on fermait avec un cachet une lettre, c'est terminé, c'est clos. Hein. Ou bien c'était encore pour marquer la propriété. Voilà, ça m'appartient. Autrefois, vous vous souvenez, on voit parfois encore dans les films, hein, ils marquaient une bête au fer rouge. Voilà, c'était le signe d'une appartenance, hein, d'une propriété. Et Dieu nous dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui l'ont accepté pour le Seigneur, pour le Sauveur, hein, ils règnent sur leur vie, eh bien, ils sont marqués d'un sceau, d'une manière indélébile, inviolable. C'est définitif. Et Dieu nous dit vraiment que nous avons été scellés. Regardez Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand on marque d'un sceau, c'est qu'on ne veut pas que la chose change. On veut que ce soit sûr, que personne ne puisse y toucher. Vous savez, quand les Romains ont scellé la pierre, ils ont mis des cordes, ils ont dû faire couler de la cire sur les cordes, et il y avait un sceau romain quand ils ont scellé la pierre où Jésus était, donc dans le caveau. Ils ont scellé la pierre pour dire, mais que, voilà, que personne n'y touche. Que ce soit sûr, que personne n'y touche. Quand Haman a voulu faire périr tous les Juifs et qu'il a réussi à convaincre le roi Assuérus qui lui a donné son sceau, il a écrit une lettre destinée à toutes les provinces et à ce moment-là, eh bien, ça a été scellé avec l'anneau du roi pour dire c'est définitif. On ne changera rien à cette ordonnance. Et même le roi ne pouvait plus rien changer. Terminé. Il a dû faire une autre ordonnance, hein, un autre ordre, pour permettre aux Juifs de se libérer eux-mêmes. Mais lui ne pouvait pas les libérer de ce sceau. C'était définitif. Et de la même manière, le sceau du Saint-Esprit dans le cœur des croyants, c'est définitif. C'est pour toujours. Quand il y a un sceau, ça nous parle d'une appartenance. Nous appartenons à Dieu seul. Le sceau, ça nous parle de sécurité. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez ces 144 000 juifs qui sont marqués du sceau de Dieu. Et puis le jugement arrive et l'ange doit frapper les habitants de la terre. Mais il est dit que tous ceux qui sont marqués du sceau sont en sécurité, ils sont protégés. Le sceau, ça nous parle aussi d'une transaction qui est terminée, c'est fini. On a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Ça y est, la rédemption a eu lieu, c'est fini, nous appartenons à l'Éternel. Le sceau, ça nous parle de quelque chose qui ne peut pas être révoqué. Ça nous parle aussi d'une identification. C'est l'empreinte de Dieu lui-même en nous, le Saint-Esprit. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez cru en Jésus-Christ pour le pardon des péchés ? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre cœur ? Est-ce que Jésus est votre Seigneur ? Il règne sur votre vie et vous lui soumettez toute votre vie. Et il est votre Sauveur qui a payé pour vos péchés. Parce qu'alors, c'est comme cela qu'on est scellé du Saint-Esprit. Donc plus qu'une présence temporaire en nous, c'est un sceau qui est définitif. Plus qu'un baptême, troisièmement, le Saint-Esprit veut nous remplir de sa plénitude. Alors, on entend parfois un enseignement qui met beaucoup l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. On nous dit, mais il faut absolument être baptisé du Saint-Esprit. Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit ? Voilà, c'est une question qui taraude. Et en fait, on nous explique que le baptême du Saint-Esprit, ce serait comme une seconde expérience qui viendrait après la conversion. Donc, on se convertirait à Jésus-Christ. Et puis après, plus tard, un mois, une semaine, un an, on serait baptisé du Saint-Esprit. Alors, que dit la Bible au sujet du baptême du Saint-Esprit ? Quels sont les versets qui nous parlent vraiment du baptême du Saint-Esprit ? Alors, c'est vraiment intéressant quand vous cherchez et vous commencez à faire le compte des versets. Vous apercevez qu'il y en a moins de 5 dans les évangiles. Et parfois, c'est des répétitions, puisqu'on le trouve dans un évangile et puis le même dans un autre évangile. Par exemple, Jean-Baptiste va dire « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui » Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc là, c'est clairement le baptême du Saint-Esprit. On voit que c'est une promesse. C'est quelque chose qui devait arriver. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera. C'est futur. Deuxième texte des évangiles, Matthieu 3, verset 11. On peut le prendre. Matthieu 3, verset 11. C'est encore Jean-Baptiste. Il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de je ne suis pas digne de porter ses souliers. » C'est ça dans le texte, oui. Parce qu'il y a un autre qui dit « délier la courroie. » « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Là encore, on voit que c'est quelque chose de futur. Lui, il va le faire. Quelque chose qui doit arriver. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a d'autres traductions qui disent « Il vous baptisera dans l'Esprit et le feu. » Intéressant. Dans l'Esprit et le feu. Ça, c'est les seuls versets qui parlent vraiment du baptême du Saint-Esprit dans les évangiles. Maintenant, si on va dans les épîtres, il doit bien y avoir beaucoup de versets qui parlent du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit, pardon, dans les épîtres. Eh bien non, il n'y en a qu'un. Un seul dans les Épîtres. 1 Corinthiens 12, verset 13. Il dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. » Et là, c'est intéressant, on est dans les Épîtres, et c'est au passé. C'est au passé. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. C'est du passé, c'est fini. Donc, on a quelques versets qui nous parlent d'un événement futur. Et puis, on a un verset qui nous parle d'un événement passé. Et là, on cherche. Mais où est ce baptême du Saint-Esprit ? Et en fait, le baptême du Saint-Esprit, il a eu lieu à la Pentecôte. C'est là où l'Église a été baptisée, immergée dans l'Esprit. C'est là où on était, je dis « on » parce que c'est l'Église, c'est nous. Nous avons été baptisés de Saint-Esprit et de feu, ou dans le Saint-Esprit et le feu. Alors maintenant, quand un pécheur se repent, quand il croit et qu'il accepte Jésus-Christ, il est intégré à l'Église, il est associé, il rentre dans le corps de Christ, et de fait, c'est là où il reçoit le Saint-Esprit, c'est là où il est baptisé du Saint-Esprit. Vous avez été baptisé le jour où vous avez cru, et vous l'avez reçu. C'est ça, votre baptême. Parce que vous avez été intégré à ce baptême qui a eu lieu à la Pentecôte il y a 2000 ans. Et donc, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une seconde expérience, mais c'est l'expérience de la conversion à Jésus-Christ. C'est l'expérience même. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais alors pourquoi les chrétiens, certains chrétiens, pensent que le baptême du Saint-Esprit serait une seconde expérience? Et pourquoi ils disent et ils pensent cela? Parce que très souvent, on confond baptême et plénitude. Baptême et plénitude. Le baptême, il arrive qu'une seule fois, le jour de notre conversion, là où nous sommes intégrés à l'Église. Nous sommes alors baptisés, nous sommes immergés dans l'Esprit Saint. Et très souvent, on goûte une joie, une paix. Voilà, c'est l'euphorie. Plusieurs pourraient le dire. Si vous avez vécu la conversion, le jour où on se donne à Jésus, mais c'est le ciel sur la terre, le cœur qui déborde. On se dit, mais ça y est, je suis en sécurité, je le connais, il est dans ma vie, c'est merveilleux. On nage sur un nuage, Mais petit à petit, l'enfant de Dieu commence à prendre conscience que le péché ne l'a pas quitté encore. Et même s'il a reçu le Saint-Esprit, s'il est baptisé du Saint-Esprit, il doit encore faire face à des tentations, et il y a encore des chutes et des rechutes, et des combats et des épreuves, et la souffrance parfois. Et quand il pêche, il ressent aussi la tristesse du Saint-Esprit à cause de sa désobéissance. Et c'est là où le croyant doit comprendre que le baptême initial est une chose, le baptême du Saint-Esprit, et que la plénitude du Saint-Esprit, c'en est une autre. Il a connu peut-être les deux en même temps, le jour de sa conversion, mais la plénitude l'a quitté. Et maintenant, il lui reste le fait qu'il a été baptisé dans l'Esprit, qu'il est sauvé. Mais il a perdu quelque chose ici. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et il faut savoir que notre vie, elle est comme un récipient. Nous sommes un récipient. Et Dieu a commencé à y verser son Esprit dans notre cœur. Il est entré en nous, il nous a scellés, nous lui appartenons. Mais il y a deux manières d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. Il y a deux manières. Alors je vais vous l'illustrer là, je vais faire de la cuisine un peu. J'espère que je ne vais pas faire une catastrophe. Il y a deux manières, vous savez. Vous pouvez avoir aujourd'hui l'Esprit en vous, comme ça. Ça c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand vous l'avez en vous de cette manière, il y a du vide. Et la nature, elle n'aime pas le vide. Quand il y a du vide, ça vient se remplir d'autres choses. Et ça vient de se remplir des choses qui ne plaisent pas forcément au Seigneur. Les choses du monde, et le péché, et les mauvaises habitudes, et les désobéissances, et voilà. Il ne peut pas y avoir de vide. Soit l'Esprit est plein en nous, soit il y a du vide. Ou bien, on le laisse nous remplir. Et c'est le sens du verbe. Vous savez, le verbe, c'est être continuellement rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est continuellement rempli du Saint-Esprit. Ça déborde. C'est le sens du verbe. Soyez continuellement remplis, que ça déborde, qu'il n'y ait plus de vide. Plus de vide. L'Esprit, voilà, il prend tout, il remplit tout, et il agit comme il en a envie dans notre vie. C'est ça. C'est ça. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et la plénitude, eh ben, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien. C'est chaque jour qu'il faut se placer devant le Seigneur, chaque jour qu'il faut confesser ses péchés, chaque jour qu'il faut essayer d'entretenir cette relation avec lui. Parce que si on néglige, eh ben, hop, très vite, le verre commence à se vider, et puis il se vide, et puis voilà. Alors, il restera toujours un fond. Nous sommes au Seigneur. Mais il y a beaucoup de vide autour. Il y a beaucoup de vide autour. Plus qu'un baptême, Dieu veut nous donner la plénitude du Saint-Esprit. Plus qu'une réformation, l'Esprit est venu pour nous régénérer. Et une autre erreur qui peut être faite, et que souvent nous faisons, c'est qu'on veut essayer de se réformer nous-mêmes. On veut se changer nous-mêmes. On voit les commandements de Dieu, on voit sa vie, ce qui ne va pas bien, et on se dit, je vais le faire. Allez, je vais le faire, je vais corriger, voilà. Hein, je vais prendre les bonnes habitudes, je vais le faire. Et je vais réformer ma chair. Je vais essayer de réformer ma chair. Et non, c'est pas possible. C'est ce qui arrive aussi à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément donné leur vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus n'est pas pour eux le Seigneur. C'est pas lui qui commande tout. Ils vivent leur vie. Mais quand même, ils aiment les évangiles, ils aiment l'exemple de Jésus. Alors ils se disent, mais puisque tout ça c'est bon, ben moi je veux quand même faire ce que le Seigneur dit. Alors, ben, s'il dit de ne pas faire ça, je ne veux pas le faire. S'il dit de faire ça. Et finalement, on se dit qu'essayer de mettre en pratique ce que Jésus dit, ça suffit. Ça suffit pour plaire au Seigneur, et puis c'est tout. Hein. Après, je vis ma vie pas comme Jésus, mon Seigneur. Mais j'ai une bonne morale. Je fais quand même ce que l'Évangile dit dans les grandes lignes. Mais la Bible, elle ne nous encourage pas à faire une réformation de ce qui ne va pas en nous, mais plutôt à vivre une nouvelle naissance, un nouveau commencement, un nouveau départ. Et c'est une transformation, c'est une régénération par le Saint-Esprit. Et vous savez, ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas juste qu'on mette un patch sur les choses qui vont pas en nous. C'est pas juste allez, un coup de peinture sur notre vie pour qu'elle soit un peu meilleure et plus belle, elle paraisse plus belle en apparence. Ou bien Dieu ne veut pas essayer d'améliorer ce qui est tordu, redresser ce qui est de travers. Dieu ne veut pas faire ça. Il ne veut pas faire ça. Mais il veut qu'on soit une nouvelle création, un homme nouveau, une nouvelle personne. Et il peut le faire et il le fait. Et c'est ça la conversion à Jésus-Christ. C'est ce qui se passe quand on croit en lui et que l'Esprit entre dans notre cœur. Là, c'est un nouveau départ. On chante le cantique, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Parce que c'est un nouveau départ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature selon les versions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on voit que Dieu ne veut pas, par le Saint-Esprit, réparer le vieil homme, le pécheur que nous sommes. Mais il vient mettre en nous un homme nouveau. C'est une régénération et donc c'est une transformation complète, totale, intérieurement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez, avant de vouloir changer quoi que ce soit, Ben, il faut d'abord se convertir. Il faut d'abord que le Saint-Esprit entre réellement en nous, qu'il nous régénère. Hein. Et puis ensuite, hein, il ne s'agit pas d'essayer de réformer le vieil homme qui est toujours là et puis essayer de l'améliorer. Non, Dieu ne veut pas faire ça. Vous savez ce qu'il veut faire ? Il veut le crucifier. Il veut crucifier le vieil homme. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Romains 6, versets 6 à 8. Il dit ici, Romains 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » C'est du passé. « Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Et là, Paul explique quelque chose de simple. Hein. Nous sommes des pécheurs, ce n'est pas possible d'améliorer notre vieille nature. On ne pourra pas l'améliorer, alors Dieu a fait en sorte qu'elle soit crucifiée. Carrément crucifiée. Jésus est mort, et quand il est mort pour nos péchés, non seulement il est mort pour nous donner le pardon de nos péchés, hein, il a subi la peine que nous méritons, donc il peut nous pardonner, mais en plus de cela, il prend avec lui cette vieille nature et elle est crucifiée avec lui. C'est quelque chose de spirituel, bien sûr, hein, mais c'est réel. Il prend notre vieille nature, elle est crucifiée avec lui. Et il n'y a rien de plus radical pour empêcher quelqu'un d'agir. Alors aujourd'hui, en France, il n'y a plus la peine de mort. Certains pays la pratiquent encore. Mais imaginez un criminel qui vraiment a fait des choses horribles. Il subit la peine de mort. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Et il ne continuera plus à faire des choses horribles. Hein. Il n'y a rien de plus radical. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce que Dieu a choisi de faire avec le pécheur que nous sommes, la nature pécheresse qui est en nous. Nous avons une mauvaise nature. Et il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'elle soit morte pour ne plus pécher et ne plus agir. Il a choisi de crucifier cette vieille nature. Verset 7, il dit, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Et c'est quelque chose de spirituel, mais que chaque enfant de Dieu doit comprendre. On ne lutte pas contre la chair, mais on saisit qu'elle est morte et qu'il faut arrêter de lutter contre elle. Mais il faut plutôt s'occuper du Seigneur et dire « Seigneur, je veux vivre pour toi et consacrer ma vie. Vis ta vie en moi. Je veux vivre dans le nouvel homme que tu as mis en moi. » C'est ça qui est important. C'est pour ça que Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est le nouvel homme. Et si je vis maintenant dans la chair, dans le corps, eh bien je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Jésus-Christ vit en moi par son esprit. Et il est venu nous régénérer pour qu'on vive hein, cette vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un petit peu comme si vous invitez quelqu'un chez vous. Je ne sais pas comment est chez vous. Peut-être que c'est très bien hein, chez vous. Mais admettons qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à changer. Vous invitez quelqu'un chez vous qui a le pouvoir de changer les choses. C'est quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui peut tout faire, qui peut tout transformer. Il peut transformer votre intérieur tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Il peut rendre votre demeure parfaite. C'est Dieu lui-même. Et vous l'invitez chez vous et vous avez le choix. Soit vous ouvrez un placard, vous le mettez dans le placard, vous fermez le placard et puis vous continuez à vivre comme vous voulez. Hein? C'est un peu ce qu'on fait parfois dans notre vie. On l'invite chez nous et on l'enferme dans un placard. Ça, c'est ton placard, Seigneur. Hein? Et ça, c'est mon domaine. Ça, c'est ma vie. Ou bien, on l'invite chez soi et on dit, Seigneur, tu es chez toi. Prends tout, vas-y. Tout est à toi. Chaque pièce, chaque recoin, chaque pensée, chaque désir, chaque aspiration, chaque mobile, tout est à toi. Prends tout, va dans toutes les pièces, change ce qu'il y a à changer. Transforme-moi. Alors là, c'est la consécration. Et là, ben, le Seigneur est libre. Et il peut aller partout, et il peut nous remplir, comme ça, complètement. Qu'est-ce qu'on fait quand on invite le Seigneur chez nous? Où est-il? Est-ce qu'il a tout ou il a un placard? Et plus qu'une réformation de la chair, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous régénérer et pour qu'on vive dans la vie nouvelle, dans le Fils de Dieu. Est-ce qu'on lui laisse toute la place? Enfin, cinquièmement, plus qu'un sentiment, l'Esprit, le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance du Fils de Dieu. Et si Dieu nous accorde parfois le sentiment de sa présence, c'est vrai, parfois on ressent que Dieu est là. Mais le Saint-Esprit, il ne nous est pas donné simplement pour qu'on ressente la présence de Dieu en nous. Hein. Parfois on voudrait que ça ne nous quitte jamais et qu'on le ressente toujours, mais ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas nécessairement ce que Dieu a voulu, même si c'est vrai, et c'est merveilleux quand on a un vif sentiment de sa présence. C'est vraiment appréciable et on se réjouit. Mais ça ne doit pas être le moteur de notre vie. Ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est plutôt l'œuvre invisible qu'il est en train de faire dans notre vie, dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand on s'occupe de lui, il s'occupe de nous. Et il fait une œuvre que nous ne voyons pas. Et pourtant, il est en train de l'opérer. Et j'aimerais reprendre 2 Corinthiens 3, verset 18. Alors, dans la version second, il est dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Ça, c'est la version second. Bon, j'aime beaucoup ma version, mais pour le coup, là, je dis... J'aurais préféré que ce soit traduit d'une autre manière. Et la version Darby, donc peut-être si tu veux mettre 2 Corinthiens 3, 18, la version Darby. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Je vous ai lu la version Darby. Alors je vais vous lire la version second quand même que vous sachiez, vous l'aviez vous. 2 Corinthiens 3, 18, il dit... Est-ce que je suis en train de m'emmêler les pinceaux? Voilà, c'est ça. La version seconde dit « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur ». On a du mal à comprendre. Mais quand il dit « Nous tous dont le visage découvert, nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit ». Là, c'est plus clair, vous voyez. On contemple à face découverte la gloire du Seigneur. On contemple le Seigneur et c'est là où on est transformé en la même image de gloire en gloire. Et vous savez, quand on prend sa Bible et on lit, on est en train de contempler à face découverte le Seigneur. Quand on prie, on s'approche de lui en esprit, en vérité. Pas forcément en s'imaginant quoi que ce soit, mais par l'esprit, dans notre cœur, en pensant à lui, on est en train de contempler à face découverte le Seigneur. Quand on chante des cantiques, on est en train de le contempler dans les cantiques. Quand on est en communion les uns avec les autres, qu'on se réunit, eh bien, il y a Christ hein, qui se manifeste dans une parole, dans un partage, dans une communion, dans de l'amour. On est en train de contempler Christ. Contempler Christ. Alors, il y a une ce qu'on appelle une translittération. C'est Alfred Kuhn qui a pris toutes les versions de la Bible et qui a essayé de les mettre ensemble. Donc, chaque fois qu'il y avait des idées un peu différentes, il essayait de les associer ensemble. Alors, j'aimerais vous lire ce verset. Donc, il dit « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement la nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous c'est le Seigneur lui-même par son esprit. C'est beau, hein? C'est tellement bien dit, hein? Alors oui, c'est bien de ressentir le Saint-Esprit. Mais le plus important, c'est de savoir que même si je ne le ressens pas et que je suis fidèle, il est en train de me transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Il est en train de changer ma vie. Et donc, il faut fixer nos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi, dit l'Épître aux Hébreux. Pour conclure, plus qu'une force agissante, le Saint-Esprit est une personne, à part entière, c'est une personne. Plus qu'une présence temporaire, c'est un sceau qui est définitif dans le cœur du chrétien. Plus qu'un baptême initial, et il y a un baptême initial, le Saint-Esprit veut nous remplir comme un verre qui déborde. Plus qu'une réformation, il vient nous régénérer. Et il faut laisser le vieil homme crucifié pour vivre dans l'homme nouveau. Plus qu'un sentiment, l'Esprit nous transforme à sa ressemblance. Est-ce que c'est votre expérience? J'aimerais prendre un dernier verset. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, eh bien, je pose la question. Est-ce que vous marchez selon l'Esprit ou vous marchez selon la chair? Est-ce que l'Esprit habite en vous? Est-ce que vous l'avez reçu et vous le savez? Est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Ce sont les questions les plus importantes hein, à se poser. Est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Sinon, eh bien, il ne tient qu'à vous de vous approcher de lui demander pardon et dire « Seigneur, peut-être je te connais, mais je ne t'ai pas accepté encore comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sois mon Seigneur, je veux t'obéir. Sois mon Sauveur, lave-moi de mes péchés. » Et alors, eh bien, il le fera. On va avoir un moment de prière. Donc, si plusieurs veulent prier, ils peuvent le faire librement.